Je crois que vos applaudissements ont valeur de remerciement pour ce que vient de nous dire Philippe Mérieux. Et maintenant, nous allons pouvoir passer au débat. Mais avant de passer au débat, je voudrais signaler que juste après le débat, on pourra visiter l'exposition au centre de recherche des Amis de Freinet, rue de la Navière à Mayenne. Alors maintenant, peut-être avez-vous des remarques à faire ou des questions à poser ?
Des objections, des témoignages.
Voilà, oui. Des provocations aussi ?
Absolument. Hein ? Surtout à penser. Alors, il n'y a pas de micro, mais vous pouvez parler parce que on vous entend quand même. On s'entend sans micro, en fait. Hein.
Il faudra répéter la question.
Oui, on répétera la question pour l'enregistrement.
Répéter la question.
Parce que Jaurès, à la tribune de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de micro. Hein. Ça marchait quand même. Hein. Oui, il y a monsieur que j'ai vu lever la main. En général, ça marche, je fais semblant de... Oui, ben voyez. Allez-y.
Je veux savoir ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, enfin, depuis quelques années déjà, l'école normale supérieure a été arrêtée. Alors, sachant que dans l'université, que vous connaissez bien en l'occurrence, la question de la mise en pratique de la pédagogie, dans le cadre de l'individualisation des cours, etc., peut être vraiment questionnée.
Je vais le faire très vite parce que c'est une question qui mériterait de très longs développements institutionnels. Puis j'ai été moi-même directeur d'IUFM, c'est un sujet que je connais un peu. Alors, d'abord, les écoles normales supérieures, non, elles existent plus que jamais. Elles ont le vent en poupe. C'est les écoles normales qui ont été fondues dans les IUFM. Les écoles normales supérieures n'ont jamais été menacées. Elles sont même plus que jamais au hit parade de ceux qui touchent le plus de crédits et qui ont le plus de subventions. Mais elles préparent l'agrégation. Et même pas des gens qui, pour la plupart, iront dans l'enseignement secondaire. Elles préparent à des gens qui, pour la plupart, vont aller à l'École nationale d'administration, à l'ENA, etc. Ça n'est plus du tout ce que ça a pu être, il fut un temps. Alors, les écoles normales ont été intégrées dans les IUFM dans un moment très particulier, à la suite de la loi de 89, au moment où Lionel Jospin a décidé d'aligner le statut des professeurs du premier degré et des professeurs du second degré. Et c'était dans le cadre de ce qu'on appelait la revalorisation. On a décidé de recruter les deux au même niveau, au niveau licence, et d'aligner les carrières, les retraites et l'ensemble des éléments des deux styles de professeurs. C'était une grande victoire, il faut le dire, pour le premier degré. Le premier degré le demandait depuis très longtemps et demandait d'être reconnu à égale dignité avec le second degré. On a donc créé les IUFM, qui avaient pour vocation non pas de détruire les écoles normales, mais d'intégrer dans une même unité la formation du premier degré qui existait dans les écoles normales, et la formation du second degré qui existait à l'époque dans ce qu'on appelait les CPR, les centres pédagogiques régionaux, qui était une formation pratiquement inexistante ou très faible. Alors, est-ce que les IUFM ont réussi ? Je pense qu'ils n'ont pas complètement réussi. Je pense que les IUFM ont été tâtonnants et qu'ils n'ont pas su mettre en place, comme on aurait dû le faire, une véritable alternance. Bon. Avec un aller-retour en permanence entre le terrain et la modélisation. Bon, ceci dit, ils avaient 12-13 ans, ils n'étaient pas très vieux. On a décidé de les supprimer. Aujourd'hui complètement par le processus qu'on appelle de mastérisation. C'est pour moi une grave régression, puisque on pourra devenir professeur des écoles ou professeur d'histoire-géographie en collège avec un master de droit constitutionnel, sans jamais avoir fait un cours devant des élèves et sans jamais avoir été évalué par quiconque devant des élèves, puisque la leçon, si leçon il y a au concours, se fera devant un jury et pas devant des élèves. Ce qui veut dire que le savoir-faire devant les élèves ne sera plus pris en compte dans le recrutement et dans la titularisation des enseignants. Et ça me paraît dommageable. C'est pas que j'ai quoi que ce soit contre les titulaires d'un master de droit constitutionnel ou de je ne sais trop quoi, mais un master de droit constitutionnel ne donne pas de facto la compétence pédagogique pour enseigner l'histoire-géographie à des élèves de 5e de ZEP. Et le risque énorme que nous prenons, c'est que sans formation, ces jeunes collègues oscillent entre la dépression et la répression. De temps en temps, ils seront dans la dépression, et de temps en temps, ils seront dans la répression. Et je crains que cela soit un retour en arrière assez terrible. Je pense que je sors là de mon obligation statutaire de réserve, que je n'ai que très peu utilisée dans ma carrière pour ne pas l'user. Je pense que le gouvernement fait là une très mauvaise action et qu'il joue à l'apprenti sorcier sur un dossier très épineux et un dossier à très long terme. Parce que n'oublions jamais que nous allons former à partir de septembre 2009 des gens qui seront encore en poste avec des enfants qui vont naître en 2045. Ou en 2040, c'est-à-dire que la formation des enseignants, ce n'est pas un chantier pour 15 jours, hein. C'est un chantier pour 40 ans, le temps d'une carrière. Hein. 40 ans hein, sur un coup de tête, et pour des raisons technocratiques et politiciennes obscures, je trouve que c'est un peu dommage. Je le dis d'autant plus librement que je l'ai dit au ministre Xavier Darcos, que je connais bien, et que nous nous en sommes longuement expliqués. Donc ma position n'est pas sur ce plan-là. Ma position est tout à fait publique. Elle est tout à fait publique. Et il la connaît. Oui. Ah bah attendez, moi, non, la question n'est pas de savoir s'il m'a entendu. Moi, je ne suis rien. Moi, je suis, entre guillemets, une personne parmi d'autres. Le problème n'est pas qu'il m'entende. Le problème est que un vrai travail de réflexion soit mené sur qu'est-ce que c'est qu'être enseignant et quelles compétences ça requiert, et ensuite comment les former. Or, aujourd'hui, on n'a pas fait ce travail. On ne part pas du fait qu'est-ce que c'est qu'enseigner aujourd'hui, quelles compétences ça requiert et comment les former. On part, à l'inverse, de dispositifs et de bidouillages institutionnels pour satisfaire X, Y ou Z, et puis arrangez-vous avec ça derrière. Alors, moi, ce que je demande, ce n'est pas qu'on m'entende, moi, ça n'a aucune importance. Ce que je demande, c'est que la démarche parte de ce qu'on cherche à former. Quels enseignants cherchent à former pour quel enfant, avec quelle capacité, quelle qualité. Et une fois qu'on a défini ça, qu'on cherche comment on peut les former. Après, si on me dit qu'il faut refaire l'école normale en 3 ans après le bac, si on me le justifie, moi, je suis prêt à l'entendre. Moi, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est simplement qu'on prenne la question par le bon bout, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut former. Et quand on aura défini qu'est-ce qu'on veut former, on saura comment. Voilà. Qui sont les gamins aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que mener une classe? Qu'est-ce que ça requiert comme compétence? Et comment ça s'apprend? Quand on aura répondu à ces 4 questions, on pourra mettre en place des dispositifs de formation. Mais pour le moment, c'est hallucinant, pour le moment, on bidouille des dispositifs sans savoir à quoi ils vont servir, ni quels enseignants on forme au bout, quoi. C'est ça que je trouve incohérent. Donc moi, je demande à ce que, non pas, et c'est là où je diverge avec un certain nombre d'organisations, je ne me demande pas que soit ouvert le chantier de la masterisation, je demande que soit ouvert le chantier de la profession d'enseignant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on réfléchisse à ce qu'exige comme capacité, comme qualité, comme compétence, comme savoir-faire, comme culture, le fait d'être enseignant aujourd'hui. Et moi, je vais vous dire, là-dessus, nous ne sommes pas d'accord à gauche. Parce que moi, je défends, par exemple, qu'il faut une culture pédagogique, ce qu'un certain nombre d'organisations syndicales du second degré de gauche récusent, en disant que la discipline suffit. Et là, il y a de vraies la discipline scolaire, hein, pas la discipline, faire la discipline, suffit. Et là, il y a de vraies lignes de clivage. Et donc, il faudra bien qu'on avance et qu'on travaille sur ces questions-là. Moi, je ne cache pas les choses. Hein. Je suis très libre avec moi-même et avec les autres. Je dis, si la gauche n'a pas ouvert le dossier de la formation des enseignants et si elle ne l'a pas réglé comme elle aurait dû le faire. Si elle a laissé les IUFM brinque-baller comme ils ont brinque-ballé, c'est parce qu'elle n'a pas réellement posé la question de qu'est-ce qu'enseigner et qu'est-ce que ça requiert. Et qu'elle n'a pas tranché entre le modèle, on va dire pour faire gros premier degré, et le modèle second degré. Et que nous sommes toujours dans cette opposition que dénonçait déjà Jules Ferry quand il disait qu'il était absurde de dire que pour enseigner à l'école primaire, il fallait aimer les élèves, et que pour enseigner à l'école secondaire, il fallait aimer les mathématiques. Voilà, Jules Ferry disait rien de plus absurde que cette opposition. Et je suis d'accord avec Jules Ferry là-dessus. Même si Jules Ferry n'est pas mon modèle de ministre de l'Éducation. Mon modèle de ministre de l'Éducation, c'est Jean Zay. Ça n'est pas Jules Ferry. Autant Jules Ferry est un homme qui a les pieds dans le 19e siècle, c'est l'homme du colonialisme, c'est l'homme qui a tout autant envie d'empêcher le retour de la Commune de Paris que de reprendre l'Alsace et la Lorraine et de former une armée coloniale. Donc c'est un homme en plein dans le 19e siècle, qui fait faire des progrès à la France, mais dans son siècle. Autant le vrai visionnaire est celui dont il faut réexaminer, reprendre l'inspiration et la vision prophétique qu'il a eue, c'est Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, qui était aussi ministre de la Culture, des Beaux-Arts, de la Jeunesse et des Sports, et qui a une œuvre absolument fantastique, qui n'a jamais pu voir le jour à cause, vous le savez, du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez que Jean Zay est mort assassiné par la milice. Assassiné par la milice. Même pas par les nazis, mais par la milice. Tout à fait. Oui, je vous en prie.
Je pense qu'il y a une question de finalité, c'est pas seulement savoir quel citoyen, quel être, c'est la finalité du système dans son ensemble, parce que je pense que derrière le clivage entre savoir et pédagogie, qui vraiment est la ligne de fracture, par exemple, bon, moi j'ai travaillé sur une maquette de master chez la musique des coopératives à Nanterre, et
bien sûr.
En fait, derrière ce débat, il se cache deux tendances qui seraient une tendance que le système éducatif est là pour produire des élites, celles qui vont être à la tête du pays avec après leur formation dans les grandes écoles. Et puis, on est là pour écrémer au fur et à mesure, on n'est pas là pour former les agriculteurs, on est là pour écrémer et obtenir l'élite. Ou alors, est-ce qu'on fait une éducation pour que chacun puisse s'émanciper justement par le savoir et que ce n'est pas l'enjeu de taille. C'est pas seulement
oui, je crois que vous avez raison. Je crois que, en même temps, je suis sur votre position et en même temps, je serai un tout petit peu plus nuancé que vous. Je crédite mes adversaires, y compris ceux qui sont pour le tout savoir et au sens du tout disciplinaire et pas de pédagogie, je les crédite de pouvoir être aussi démocrates et de pouvoir vouloir que tout le monde accède à l'histoire, à la géographie, aux mathématiques et à l'ensemble des savoirs qui permettent de penser le monde et d'y être acteur. Je ne pense pas qu'ils soient tous des élitistes, au sens où vous le dites. Mais en même temps, il y a effectivement de vraies lignes de clivage autour de ce que j'appellerais le rapport... ce que j'ai vaguement évoqué dans mon propos, le rapport entre transmission et émancipation. Au fond, le clivage est plutôt là, entre ceux qui font de la transmission une espèce de préalable à l'émancipation, on transmet d'abord, on s'émancipe après, et ceux qui pensent que c'est dans l'acte même de transmission que se joue l'émancipation. Là, je pense qu'il y a un vrai clivage idéologique. Moi, c'est là-dessus que je me suis, entre guillemets, empaffé avec quelqu'un comme Luc Ferry, par exemple, qui me disait dans nos discussions, il faut d'abord que l'élève soit dressé avant qu'il puisse accéder à l'intelligence des choses. Bon. Et il y a une espèce de préalable du mécanique dans l'apprentissage par rapport à ce qui serait le culturel, qui ne viendrait que après, comme si... alors, je vais dire des choses un peu dures. L'assujettissement était une condition préalable à la liberté. Et puis, il y a ceux qui, comme moi, et je crois comme Freinet et d'autres, pensent que c'est dans l'acte même d'enseigner et d'apprendre que se joue l'émancipation, et que c'est le rapport au savoir, dans l'acte même qui transmet ce savoir, qui permet cette émancipation. Et que donc je ne peux pas séparer la transmission de l'émancipation. Moi, je crois qu'un certain nombre de gens pensent de bonne foi qu'il faut transmettre, mais ils n'intègrent pas l'idée que l'émancipation n'est pas un supplément d'âme qui vient après, mais que c'est dans l'acte de transmission et par la manière dont on le structure et on le construit qu'on contribue à l'émancipation des sujets. Je crois qu'il y a là, je crois que la ligne de clivage, alors au sens idéologique, elle est vraiment là. Et je vais sortir complètement de mon obligation statutaire de réserve, mais j'ai longuement, deux fois dans la soirée, j'ai longuement parlé avec Xavier Darcos des programmes de 2008 de l'école primaire. Alors d'abord, que je vous dise tout de suite, moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait une fixation sur les programmes. D'ailleurs, Freinet non plus, hein. Il s'en foutait complètement des programmes. Il faisait son truc, et alors s'il pouvait y avoir n'importe quel programme, alors là, il disait toujours qu'il retombait sur ses pattes.
Il disait qu'on arrivait toujours à faire le programme.
Voilà, qu'on arrivait toujours, c'est ça, on arrivait toujours à faire le programme. Donc moi, je ne suis pas du tout, à la limite, bon, qui change le programme, si ça les amuse, enfin, ce n'est pas un problème, on se retrouvera toujours. Mais j'ai quand même discuté avec Xavier Darcos longuement sur les programmes de 2008. Et quand on pousse un peu dans les retranchements, dans ces retranchements théoriques, quelqu'un comme Xavier Darcos, il dit très clairement ça. Il dit très clairement, l'exercice précède le sens. Et ça, c'est une option théorique. C'est une option théorique. Moi, je pense que l'exercice et le sens sont solidaires, mais que l'exercice ne précède pas le sens. Voilà. Voilà. Et qu'il n'y a pas un préalable au sens qui serait l'automatisme. Parce que moi, je pense en plus que l'automatisme ne produit pas du sens. On ne produit pas du sens en empilant des automatismes. Voilà. Là, je pense que idéologiquement, il y a une vraie ligne de fracture. Qu'elle est extrêmement importante pour comprendre un certain nombre de débats. Voilà, vous souhaitiez intervenir, allez-y.
Un tout petit quelque chose, parce que vous avez parlé des cahiers, là, tout à l'heure. Hein. Bon, on vous avait dit, on ne regarde pas tellement les cahiers quand on a appris à écrire sur les cahiers. Or, vous avez parlé aussi qu'on archivait. Mais si on archive des cahiers, ou plus exactement des journaux scolaires, où les enfants ont appris à écrire, c'est à écrire le français, si on les archive, c'est que précisément, ils ont quelque chose d'intéressant. Et on les archive justement parce qu'on a appris à écrire avec du sens, avec des recherches, en faisant l'homme au travers du travail d'écriture. Et c'est pour ça qu'on les archive, parce qu'encore aujourd'hui, ils ont de la valeur.
Bien sûr.
On est capable même peut-être, on devrait même être capable de les utiliser sur le plan historique.
Bien sûr.
Et sur le plan de la réflexion sociale. Il y a plein de valeurs dans les cahiers sur lesquels les enfants ont écrit à cette époque-là. Mais on ne leur a pas appris à écrire uniquement dans la forme, uniquement dans l'exercice. On leur a appris à écrire parce qu'ils avaient de l'expression à donner, parce qu'ils avaient de la communication à faire. Et c'est ça qui est l'essentiel, bien sûr. Il ne s'agit pas d'apprendre à écrire pour écrire. Il s'agit d'apprendre à écrire pour des raisons précises de la formation de l'homme qui est l'expression, la formation de soi-même et la communication, c'est-à-dire la possibilité de la relation sociale. Moi, ça me paraît fondamental.
Tout à fait. Moi, je ne peux qu'approuver totalement cela. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les cahiers, c'est quand j'ai dit pour chacun d'entre nous, pour former des enseignants et témoigner qu'on peut apprendre à écrire, comme vient de le dire M. Goupil, il n'y a aucun problème. Mais je dis pour chacun d'entre nous, même si nous avons une affection, ce qui est le plus important, c'est ce que nous construisons mentalement par rapport aux objets qui nous aident à le construire. C'est pour ça que, d'une certaine manière, la fixation exclusive sur la note n'a pas de sens. Ce qui est important, ce n'est pas la note, sinon on sait bien que l'enfant va l'atteindre par n'importe quel moyen, y compris copier sur quelqu'un ou faire n'importe quoi, ou écrire sans comprendre. Bon. Ce qui est important, c'est ce qu'il a compris dans sa tête et ce qui s'est mis en jeu dans son intelligence. Voilà. Et là, je pense qu'on est complètement d'accord. Il y avait une autre demande de prise de parole d'une dame. Voilà, excusez-moi. Non, j'ai employé ce mot dans deux sens dans le même ouvrage et volontairement je précise les deux sens. Un, la pédagogie est une résistance en particulier à ce que j'ai appelé tout à l'heure le capitalisme pulsionnel. Hein? C'est-à-dire, et elle n'est pas une résistance anodine parce que ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que à bien des égards, un certain nombre de pédagogues, Célestin Freinet, mais aussi Janusz Korczak, mais d'autres encore, sont encore plus actuels aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque où ils ont écrit, parce que les problèmes auxquels ils s'étaient confrontés sont aujourd'hui beaucoup plus graves et beaucoup plus systématiques. Alors, c'est un peu moins vrai pour Freinet, mais si je prends toute la cohorte de ce qu'on pourrait appeler les pédagogues de l'extrême, c'est-à-dire ceux qui se sont coltinés avec les gamins les plus durs, les plus difficiles, dont personne ne voulait, alors ça va de Makarenko à l'Union soviétique, pour vous montrer que je suis assez œcuménique sur le plan politique, à Jean Bosco, le Salésien, en Italie, qui introduit le foot et l'enseignement professionnel pour s'occuper des gamins dans la rue, en passant par Maria Montessori et dans les faubourgs de Turin, en passant par Francisco Ferrer qu'on évoquait tout à l'heure, en passant par une multitude de gens qui se sont intéressés à ces marginaux. Ils se sont intéressés à des phénomènes qui étaient des phénomènes très difficiles et extrêmes, mais qui ne concernait pas d'une manière dominante l'ensemble du grand système éducatif qui végétait avec la reproduction d'une élite d'un côté et le catéchisme au peuple de l'autre. Quoi. Or, aujourd'hui, ces gens-là sont d'autant plus d'actualité que la marge dans laquelle ils étaient occupe le centre. Si je relis la lettre de Stanz de Pestalozzi, si ça vous intéresse, vous la trouverez sur mon site entière et commentée. Mon site, c'est merieux.com, tout bêtement. Si je lis la lettre de Stanz de Pestalozzi, je découvre la première ZEP. Nous sommes en peu de temps après la Révolution française, en 1792. C'est la première ZEP. Les gamins, ils ne veulent pas apprendre, ils sont dépenaillés, ils sont malades, ils arrivent toujours en retard, etc. C'est la première ZEP. Et une ZEP grave. Ouais. Bon. Si je lis ce que propose Pestalozzi, je lis des choses absolument fabuleuses, utiles pour la ZEP d'aujourd'hui. Par exemple, Pestalozzi écrit... Plus l'enfant est difficile et en difficulté, plus tu dois exiger en toute chose la perfection, y compris dans les moindres détails de ses comportements quotidiens. C'est tout à fait vrai. C'est une règle de base de la pédagogie. Et donc, d'une certaine manière, Pestalozzi, qui fait faire des exercices d'attention à ses élèves, comment se concentrer, etc., travaille sur une marge qui... aujourd'hui, occupe presque le centre. Et à cet égard, c'est ce que je dis brièvement dans ce livre, le message de ce que j'appelle les pédagogues historiques, qui ne commence pas à Pestalozzi, mais dont Itard et Pestalozzi marquent un nouveau départ, le message des pédagogues historiques, qui ont travaillé toujours borderline, qui ont travaillé toujours avec les inéducables, s'avère d'autant plus d'actualité que, j'allais dire aujourd'hui, la scolarité obligatoire a mis tous les élèves, y compris ceux qui étaient considérés jadis comme inéducables, au centre. Et que ce que j'appelle le capitalisme pulsionnel, après Stigler, fait d'eux des consommateurs compulsifs au lieu d'en faire des citoyens responsables. Et par rapport à ça, l'actualité, me semble-t-il, nous invite à résister, et à résister en nous appuyant et en nous adossant sur les pédagogues historiques. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours battu, avec très peu de succès, pour que dans la formation des enseignants, l'enseignement de l'histoire, de la pédagogie et des apports des pédagogues historiques soit déterminant. Alors je dis sans aucun succès d'ailleurs, puisque là-dessus, même les IUFM, c'était quasiment pas le cas, et on pouvait même imaginer dans certains cas, et je ne caricature pas, voir des stagiaires sortir d'IUFM après 2 ans d'IUFM sans jamais avoir entendu parler de Célestin Freinet. Ça pouvait arriver, c'était pas... sans jamais, a fortiori, en avoir entendu parler d'une manière un peu approfondie et intelligente, autrement qu'autour d'une phrase. Donc moi, j'ai toujours plaidé pour que les pédagogues historiques, qui font partie de notre culture, parce que paradoxalement, les grands prêtres de la culture oublient que la pédagogie fait partie de la culture, quoi. C'est-à-dire, quand ils pensent à Tolstoï, tout le monde pense à Guerre et Paix, mais on oublie qu'il y a des écoles, qu'il y a la correspondance avec Gandhi, qu'il y a toute la théorisation de l'éducation non violente, etc., etc., chez Tolstoï. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas cultivés, ceux qui prétendent que nous abolissons la culture. Hein? Donc, moi, je pense que les pédagogues historiques doivent être utilisés et que, à cet égard, il faut résister à ce qui nous arrive sur le plan social que j'ai décrit tout à l'heure, résister en s'appuyant sur ces apports des pédagogues historiques qui ont débroussaillé le terrain parce qu'ils avaient affaire à des élèves qui étaient particulièrement difficiles. Deuxièmement, c'est le deuxième sens de résister, je pense qu'il faut résister à cette espèce de yaka, à cette espèce de déni du pédagogique, à cette illusion de la pensée magique qui consiste à croire qu'il suffit de dire que les élèves vont apprendre et que les jeunes enseignants aient plus d'autorité et tout va se régler. Alors moi, j'ai formé beaucoup d'enseignants, je n'ai jamais connu aucun qui m'ait dit « je ne veux pas avoir d'autorité ». Les enseignants qui vous disent « moi, je ne veux pas avoir d'autorité », ça n'existe pas. Alors qu'on ne nous fasse pas rigoler avec cette histoire des enseignants qui auraient abdiqué leur autorité. Ils veulent tous avoir de l'autorité, simplement ils ne savent pas. Et ils n'y arrivent pas. Donc, ils manquent de formation pédagogique. Et ça, je pense qu'il faut résister là-dessus. Il faut arrêter de se laisser piétiner par des gens qui, ne connaissant pas la pédagogie, la considèrent comme responsable de tous les maux et qui sont en train d'envoyer notre école, me semble-t-il, au casse-pipe. Voilà. Je crains le pire, je vous le disais sur la formation, je crains le pire, sauf à jouer délibérément la politique du pire, c'est-à-dire à dire, il faut que notre système se casse la gueule, parce que quand tous les collèges de France auront à peu près explosé, sauf 1 ou 2 collèges de Mayenne, qui sont quand même encore assez calmes, globalement, on se dira, il faut peut-être repenser les collèges en France, faut peut-être se réinterroger sur des questions taboues, par exemple. Moi, je suis pour les questions taboues. Moi, je suis pour la polyvalence en collège, par exemple. Bon, je sais que je me fais beaucoup d'ennemis quand je dis ça. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faudra bien un jour qu'on repose ces questions.
C'est d'ailleurs ce qui a fait échouer la mission Legrand.
Oui,
je crois que c'est l'essentiel, là.
Avec le tutorat.
Avec le tutorat. C'est-à-dire que la mission Legrand avait vraiment mis quelque chose de bien pour le collège, qui était... Et vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que c'est vrai que du côté de la gauche, notamment des syndicats du second degré, eh bien, il y a eu une réticence, pour ne pas dire pire, qui a empêché de faire avancer le collège vers quelque chose qui correspondait mieux à son but social tel qu'il devrait être et non pas tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Parce qu'on conçoit le collège comme le lycée d'autrefois.
Au lieu de comme un petit lycée.
Voilà. Alors qu'on devrait concevoir le collège comme la suite de l'école primaire populaire vers...
comme le couronnement de la scolarité obligatoire.
Voilà, c'est ça, la prise en compte de tous les élèves dans leur diversité.
Tout à fait. Compte tenu de l'heure, je vous propose une dernière intervention, s'il y en a une. Oui. C'est une question à laquelle il est impossible de répondre parce qu'il y avait un projet de réforme des lycées fait par De Godemar qui a été démantelé par Darcos, qui en a proposé un autre, qui a démantelé lui-même son propre projet. Et le projet qui va apparaître est celui qui sera proposé par Richard Descoings, dont on ne sait pas ce qu'il va être et dont il nous dit que ce ne sera pas un projet de réforme. Donc, il est extrêmement difficile de se prononcer sur un objet volant aussi peu identifié. Voilà, ceci dit, je ne suis pas hostile à certains aménagements du lycée. J'ai moi-même fait un projet de réforme du lycée en 98 qui s'est cassé la gueule, quoique il y a quelques éléments qui étaient d'ailleurs parfaitement convergents avec la pédagogie freinée, par exemple les travaux personnels encadrés que j'ai installés au lycée et qui étaient à mon avis une avancée significative, mais qui ont été démantelés très largement en terminale avec l'arrivée du gouvernement de droite en 2002. Donc, je pense qu'il faut réformer le lycée, et en particulier, mais je pense que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas le lycée, c'est le collège. Je pense que la vraie priorité, c'est le collège. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Vous êtes dans un endroit tranquille, et j'en parlais avec monsieur l'inspecteur d'académie tout à l'heure, où globalement, les tensions sociales ne sont pas très très fortes. Mais moi, j'habite Lyon, je vais très souvent dans les banlieues un peu difficiles. Je connais bien certaines académies, comme l'académie de Versailles ou de Créteil, qui ont des départements assez sensibles. Je crois qu'il y a des collèges où, globalement, on ne cachera plus longtemps qu'il ne s'y fait plus aucun travail, qu'on cherche à peu près à préserver les apparences, en faisant en sorte que les gens rentrent le matin et sortent le soir, mais sans trop s'occuper de faire en sorte qu'ils y fassent quelque chose entre la rentrée et la sortie, quoi. Bon, on est vraiment, dans certains cas, dans des collèges où, me semble-t-il, chacun sauve sa peau et où on n'a pas du tout construit une véritable maison d'école habitée par la volonté d'instruire et portée par une équipe cohérente. Je pense que malheureusement, il y a des collèges qui ne sont que des simulacres de collèges et que ça ne peut pas durer, ça. C'est pas possible que ça dure. C'est pas possible que ça dure, et donc je crois qu'il y a là une vraie priorité politique, mais qui nécessite un vrai travail de fond. Voilà, nous allons nous arrêter. Je tenais d'une part à remercier à nouveau l'association des amis de Célestin Freinet, et à travers elle, Célestin Freinet, bien sûr. Je tenais à dire aussi mes remerciements à la municipalité qui nous a accueillis et à toutes les personnalités qui sont là. Je tenais aussi à faire un signe amical à Paul Le Boeck, qui nous a quittés, qui a été, je crois, une des chevilles ouvrières. Absolument. De votre association, qui m'a fait la gentillesse de me demander il y a quelques mois d'écrire un petit texte pour la postface de son excellent livre, L'école réparatrice de destin. C'est un remarquable ouvrage, et un ouvrage que je salue d'autant plus qu'il est à la fois fidèle et, j'allais dire, impertinent avec Célestin Freinet, hein, puisqu'il montre à la fois la richesse de l'inspiration de Freinet, mais il montre aussi que, ma foi, c'est pas parce qu'on s'inscrit dans la pédagogie Freinet qu'on s'interdit de penser, d'imaginer des choses différentes et même d'avoir des avis éclairé et mûr et très intelligent sur les choses. Et puis, cerise sur le gâteau, Paul Le Boeck est un de ceux qui, et ils sont très rares, a tenté d'introduire